Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Le 11 novembre 1918, jour de l'armistice, le jeune sous-lieutenant Joseph Kessel embarque à destination de New York. Il a accepté de participer à une mission interalliée qui doit le mener jusqu'en Sibérie, au sein d'une escadrille destinée à aider secrètement les armées blanches opposées aux bolcheviks. En janvier 1919, il embarque à bord du transport de troupes Sherman pour une traversée à destination de Vladivostok, le grand port de l'extrême-orient russe, terminus du transsibérien. Il y séjourna 2 mois et y fut en charge du ravitaillement destiné à des troupes basées à Omsk, à quelques 6000 km de là. De cette période de son existence, des rencontres qu'il y fit, il tira la matière de plusieurs récits et notamment de ce qui fut son dernier roman, « Les temps sauvages ». En janvier 1976, quelques mois après sa parution, Pierre Cipriot présentait l'ouvrage dans l'émission « Un livre, des voix ». Plusieurs extraits du texte y étaient lus par Jean Topard et Régine Blas et commentés par l'écrivain Louis Nucera, un grand ami de Kessel.
Depuis Les Cavaliers, qui fut un grand succès de librairie et inspira un film, Jeff Kessel n'avait rien publié. Il relisait ses anciens textes comme L'Équipage et surtout La Tour du Malheur que Gallimard a réédité en 4 volumes reliés. Les temps sauvages est une histoire vécue. C'est le récit du premier tour du monde fait par Kessel en 1918, lorsqu'il était encore mobilisé dans l'escadrille qui lui a inspiré L'Équipage. Dans un avertissement qui demeurera inédit, Joseph Kessel s'expliquait sur la naissance de ce manuscrit. « Cette histoire, écrivait-il, j'y ai fait allusion dans 1 ou 2 de mes livres. Or, il y a quelques mois, comme j'étais à la campagne avec un ami très jeune, il m'a dit que ces fragments l'avaient laissé sur sa faim. Les faits et les gens se situaient à des années de distance, dans une période sauvage et folle de ce siècle au bout de l'Azyrus. Et j'en parlais comme si tout le monde les devait connaître. Et le personnage essentiel, c'est-à-dire moi, restait dans la pénombre. Pour remonter le temps, pour aimer, souffrir et vivre à côté d'hommes et de femmes en perdition, il lui fallait tout savoir, disait-il, le climat, les circonstances, les lieux, les êtres. Tout, c'était beaucoup, c'était long. Mais nous avions du loisir, il a pu m'écouter plus d'un soir, après quoi il m'a demandé « Pourquoi ne pas écrire ce que tu viens de me raconter ? L'aventure en vaut la peine. » Eh bien, j'ai suivi son conseil en essayant de garder dans l'écriture le ton et le langage de ces soirées, comme si je me trouvais face à face avec cet autre ami, le lecteur. Donc, en octobre 1918, la guerre, devenue depuis octobre 1914 une guerre de tranchées, la guerre des taupes, comme on disait, la guerre reprend cette fois du mouvement. Des chars d'assaut plus nombreux ouvrent la voie à une infanterie qui, se sentant mieux protégée, avance, talonnant sans répit les Allemands en fuite. Jusqu'où iront-ils ? La Russie en révolution avait fait une paix séparée. Ne serait-elle pas un sûr refuge pour l'armée allemande en fuite ? C'est ainsi que naquit chez les Alliés l'idée saugrenue d'un second front qui arrêterait les Allemands quelque part entre l'Oural et la Volga. On demandait des aviateurs volontaires, Kessel s'engagea. Façon de revenir aux sources. Les origines russes, la connaissance de la langue, les contes et les livres de mon enfance, les complaintes populaires les plus belles qui soient, devaient avoir une grande part dans ce rêve, éveillé, étoilé, nous dit Kessel dans Les temps sauvages. C'est ensuite Brest, le départ via l'Amérique sur un transport de troupes, New York, San Francisco, puis tout le Pacifique, pendant que les avions de l'escadrille gagnaient Vladivostok par Suez et par Aden. On est alors le 1er janvier 1919. L'armistice est signé depuis 1 mois et demi, mais les états-majors laissent continuer cette expédition insensée. Puis c'est Honolulu, aux Hawaï. Là, les indigènes pratiquent encore la bonté de l'accueil, comme au temps où Cook avait découvert l'archipel. Le Japon, qui ressemble encore aux estampes et aux premières cartes postales. Enfin, Vladivostok, 80 jours après le départ de Sainte-Menehould. Là, le livre de Kessel devient étonnant. Vladivostok, c'est un peu Carthage et Salambo en plein XXe siècle. Et tout cela vécu par un jeune homme de 21 ans, tendre et sensible, comme on l'est à cet âge, et qui, dans ce décor d'aventure, va plutôt chercher à vivre une bleuette. Mais la ville elle-même écrase tout ce qui s'y passe. Vladivostok, que se disputent les marins et les commerçants anglais, japonais, américains. Vladivostok, peuplé de gros négociants qui ont l'air de sortir des colonies de la Hanse, de possesseurs de mines, de chercheurs d'or, de trappeurs, achetant toute leur fantaisie en pépites ou en pots de zibeline.
Tout a commencé en 1918, au premier jour d'octobre. La guerre, enfin, depuis 2 mois, avait changé de jeu. Enfin, au bout de 4 années de vie sous terre, engluée à la boue des boyaux, l'ennemi avait cédé, craqué. Notre escadrille, de terrain de fortune en terrain de fortune, se posait toujours plus avant. Elle était arrivée près de Sainte-Menehould. On volait beaucoup, repérage, reconnaissance, réglage de tir, accompagnement d'infanterie, bombardement, combat, camarades perdus. Ce matin-là, de bonne heure, observateurs et pilotes se trouvaient réunis comme à l'ordinaire dans la baraque du mess. Beaucoup portaient leurs vêtements de vol. Dehors, on entendait les mécaniciens tirer sur les hélices, lancer les moteurs. Tout était paré pour les missions. À ce moment, léger, net, vif, le torse serré dans une tunique noire d'artilleur que l'usure faisait reluire, et suivi de son épagnol mordoré, est entré notre capitaine. Il agitait une feuille dactylographiée. « Note du QG, dit-il, la dernière trouvaille. » Il lut la circulaire. Les alliés formaient une nouvelle armée, en Sibérie, composée d'éléments français, anglais, américains, canadiens, tchèques, polonais. Son objectif ? Arrêter les Allemands quelque part entre l'Oural et la Volga. Une escadrille d'observation était prévue pour les troupes françaises. Il y fallait uniquement des volontaires. Les commandants des formations aériennes étaient chargés de transmettre. Le capitaine avait achevé. Il y eut d'abord un grand silence. Il semblait que mes camarades ou bien n'avaient pas compris sur le champ ce qu'ils venaient d'entendre, ou bien qu'ils ne pouvaient y croire. Puis, d'un seul coup, ils ont parlé tous à la fois. La Sibérie en hiver, le pays des bagnes, à des milliers et milliers de kilomètres. Les Allemands là-bas, quels Allemands? Quand? Comment? Avec ce qui se passait ici, alors que tout pouvait être fini bientôt. La Sibérie. Ainsi parlaient mes compagnons de vol, de poker, de libation, de coup dur. Moi, dans une espèce de transe, je traversais des continents et des océans inconnus. Plus long le chemin, plus riche ses promesses. Et à son terme, au bout du monde, ces steppes de neige infinies, ces fleuves géants, ces forêts sans fin, ces tribus de l'âge de pierre, et les Cosaques du Baïkal, de l'amour, et les chants des forçats. Une voix placide m'a ramené parmi mes compagnons. Entre 2 bouffées de pipe, le lieutenant, carré d'épaules, toujours chaussé de sabots, fort en ventre et cramoisi de joues, qui était le chef des officiers observateurs de l'escadrille et faisait équipage avec le capitaine, lui disait « Tu vois, il n'y a pas de fou chez nous. » « Je le savais bien, » a répondu le capitaine. Puis, désignant le ciel, complètement dégagé, « Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. » Les camarades ont couru vers leurs avions qui vibraient, grondaient sous le tourbillon des hélices. J'ai fait semblant d'assurer mon serre-tête, de vérifier mes planchettes de cartes, les rejoint sur le seuil de la baraque et lui est demandé de m'inscrire pour la Sibérie.
Ça ne m'étonne pas que Kessel ait été le seul pilote de l'escadrille à accepter ce voyage fou en Sibérie. D'ailleurs, il ne savait pas qu'il était fou. Parce qu'il faut penser que Kessel a donné sens à une vocation de cosmopolitisme et de voyage, puisqu'il est né en Argentine, puisqu'enfant il a été à Nice, puisqu'il est venu à Montlhéry, il est venu à Paris, puis il est reparti en Russie, puis il est revenu à Nice, puis à Paris. Et un aspect de la vie de Kessel que peu de gens savent, c'est que, premièrement, il a été infiniment brillant dans ses études, et à 16 ans déjà, il avait une licence de lettres, et il faisait également du théâtre. Du théâtre, son père ne voulait pas qu'il en fasse, et quand il lui a demandé la permission, il a dit « Alors je veux que tu t'appelles d'un nom très ridicule, que tu prennes un pseudonyme ». Et Kessel s'est appelé Jean Dourak, qui veut dire « imbécile » en russe. Dourak voulant dire « imbécile ». Et il a abandonné et le théâtre et ses études pour déjà partir à l'aventure. Et qu'était-ce l'aventure pour un garçon de 17-18 ans à l'époque? C'était la guerre. Et il s'est engagé à la guerre et bientôt il est devenu mitrailleur et observateur dans une escadrille. Alors donc, il ne m'étonne pas qu'il ait eu ce désir de partir en Sibérie, bien qu'il était déchiré, puisque ça faisait déjà 2 ans qu'il ne voyait plus ses parents, de ne plus les revoir, et de reculer encore le moment où il les verrait. Mais malheureusement, il devait déchanter en arrivant à Vladivostok, car la mission qu'on lui demandait n'était pas du tout conforme à celle qu'un aviateur pouvait postuler ou imaginer.
Le lieutenant-colonel était un bon gros père, plutôt débraillé, avec une moustache triste, résigné. Un peu jeune, évidemment, a-t-il dit. Mais puisque vous connaissez le russe, car vous parlez bien le russe, n'est-ce pas? Aussi bien que le français, mon colonel. Alors? Il a déplié une carte. Le général Janin, avec le corps français, est à Omsk. Ici. Nous, à Vladivostok. Ici. Vous voyez, ça fait un sacré bout de chemin. Nous sommes chargés d'acheminer sur Omsk le ravitaillement en armes, munitions, effets chauds. Bien. Les cargos déchargent au port. Les Japonais reçoivent et contrôlent. Ils sont disciplinés, honnêtes, rien à dire. Mais ensuite, la cargaison passe aux mains des Russes. Alors là, fini. Évanoui. Disparu. Objectif numéro 1, retrouver nos affaires. Le transport aussi dépend des Russes. La pénurie en matériel est terrible. Ils n'ont jamais assez de wagons. Objectif numéro 2, les trouver. Objectif numéro 3, faire accrocher le wagon à un train et ce train s'arranger avec les gars des locomotives pour le faire partir. Vous avez bien compris? Oui, mon colonel. Mais comment? Avec ça. Le colonel a poussé vers moi une enveloppe et une sacoche, toutes deux cachetées. La sacoche était énorme. « Signez, je vous prie, ce reçu. Vous ouvrirez plus tard, » a dit le colonel. Il s'est arrêté un instant et puis... « Je crois que nous avons fait le tour des questions. Vous avez pour adjoint un sergent tchèque. Il vous expliquera le reste. Ici, on ne peut rien sans un tchèque. » Comme je prenais congé de lui, il a demandé brusquement... « Vous avez un revolver ?»« Non, c'est un tort. Il vous faut un revolver, croyez-moi. Un instant. » Il m'a donné un bon sur l'armurerie. Milan, sergent dans la Légion tchèque, m'attendait. Il avait des yeux calmes, les épaules hautes et carrées, de grandes mains sûres et un sourire franc. Il m'a tout de suite emmené chez lui, une maison basse, toute de guingois, mais tenue avec une propreté exemplaire. Milan et 3 autres sous-officiers tchèques l'occupaient entièrement. Une fois dans sa chambre, Milan m'a dit « Vous pouvez ici ouvrir votre enveloppe et votre sacoche en toute sécurité. » L'enveloppe contenait, munie de tous les sacrements, cachets, tampons, signatures, des ordres de mission auprès de toutes les autorités militaires et civiles de Vladivostok. Je m'y attendais. Mais lorsque je suis parvenu à faire sauter les seaux et jouer les serrures qui fermaient la sacoche, j'ai eu comme un vertige. Elle était gonflé, bourré de billets de banque. Des liasses et des liasses de milliers et de milliers de roubles. Milan a redressé la sacoche que j'avais laissée tomber sur un côté en disant « L'habitude viendra vite, vous verrez. Il en faudra beaucoup d'autres. » Avant de poursuivre, il est allé chercher sur un buffet une bouteille de vodka. Le temps de prendre 2 ou 3 verres, j'avais compris. Clair et simple. Munitions, armes, Ravitaillement, wagon, locomotive, chef de dépôt, chef de train, mécanicien, bref, choses et gens, on était, sans quoi rien à faire, obligé de tout acheter. Pas au prix de la marchandise, évidemment, il y aurait fallu un budget d'État, mais en pot de vin. C'est russe, hein, c'est russe, répétait Milan. Dans le soupir qui accompagnait ces mots, je ne sentais aucun mépris, rien que de la peine et une sorte de honte. Dès sa petite enfance, l'immense empire de l'Est, slave comme son pays, avait été un espoir sacré, le recours le plus sûr, le plus haut. Quand, au risque de sa vie, il traversait les lignes autrichiennes, il le faisait comme pour se jeter dans les bras d'un grand frère tout-puissant. Et voilà que l'empire se trouvait réduit à la Sibérie. Que là, tout était misère, désordre, désespoir. Que des étrangers y faisaient la loi. Et lui, petit sergent tchèque, il avait plus de pouvoir que bien des généraux. C'est russe. C'est russe, disait Milan. Vous verrez. J'ai vu.
Kessel est donc dans cette ville de Vladivostok où toutes les nationalités et toutes les races, et même, je dirais, les déchets de toutes les races et de tous les désespoirs sont là. Et là, une fois de plus, Kessel se montre le conteur de l'apocalypse. Et il sait à la fois, par du détail, donner une vue d'ensemble, et par l'ensemble, faire voir le microcosme, et avec une musique qui n'appartient qu'à lui. Je reconnais un texte de Kessel par la musique qui émane de la lecture, et puis un sens vraiment de l'image sans métaphore trop abondante. On dirait qu'il sait qu'il est inutile de faire des métaphores parce que l'étymologie des mots en contient bien assez, mais il a le sens, par un mot juste, de nous donner l'atmosphère d'un lieu. Et si vous voulez, il y a aussi chez Kessel une sorte, je ne dirais pas de prémonition, mais enfin le premier reportage que fait Kessel, il est en Irlande, c'est là que commence cette guerre qui continue encore aujourd'hui, cette guerre fratricide. Ensuite, il est en Espagne, plus tard, il est en Afghanistan, il est aux Indes, et on dirait, premièrement, parfois il se trouve où est l'événement, mais parfois, où simplement est Kessel, l'événement arrive, parce qu'il sait voir les gens, et d'une vie normale ou apparemment normale, il sait la développer et en faire une sorte d'épopée.
La première personne qu'il me fallait voir était évidemment le chef de tous les services ferroviaires, un colonel russe de l'armée Kolchak. Ses bureaux se trouvaient, comme il se doit, à la gare. Milan m'y a conduit. Elle était vaste, massive, plus nette et décente que les autres édifices publics. Elle n'avait pas eu le temps de se dégrader. La ligne qui reliait Vladivostok au Transsibérien n'avait pas beaucoup d'années. À l'approche, elle faisait bon effet, mais dès que notre traîneau nous eut déposés devant le haut perron, je n'ai plus été capable de penser à quoi que ce fût. L'odeur était déjà là, insidieuse, sournoise, détestable. À chaque marche, elle devenait plus lourde. Quand nous avons atteint le perron, elle imprégnait, souillait l'air pourtant libre. « Venez, » m'a dit Milan. Je ne pouvais pas. Non, je ne pouvais pas. Là, c'était l'antre de l'odeur. Elle frappait en pleine face, de plein jet, ignoble, à faire vomir. Et ce n'était rien encore. De la porte jusqu'au dernier recoin du hall, le sol était tapissé, matelassé d'une épaisse et horrible substance, molle, flasque, espèce de tourbe de marécage, dont on ne savait si elle était vivante ou morte, car tantôt elle demeurait inerte et tantôt remuait faiblement. Les fenêtres, enduites de suie, de vieilles poussières et de givre sale, ne laissaient passer qu'une lueur couleur de cendre. Il fallait un long instant pour reconnaître, dans la matière qui couvrait toute la surface du hall, sans en laisser un pouce libre, coller, entrelacer, imbriquer les uns aux autres, des corps humains. « Venez, » a dit encore Milan, mais cette fois avec une intonation qui m'a obligé à lui obéir. Pour empêcher la porte de se refermer, il avait à employer toutes ses forces. Je me suis glissé dans l'ouverture. Il m'a suivi. Le battant est retombé derrière nous. Alors j'ai été près de suffoquer. Émanation et Roland formaient une sorte de vapeur humide qui prenait aux narines, à la gorge, aux viscères. Cela sentait la graisse, le suint, la crasse, la vermine, l'urine, le vomissement. « Avancez !» a dit Milan. C'est ce que j'ai fait. Un pas derrière l'autre, un pas derrière l'autre, les pieds aussi rapprochés que possible, sans les quitter du regard un instant. Car la pâte, la bouillie, la gélatine humaine s'écartait juste pour laisser un passage à peine plus large que la paume d'une main. Soudain, j'ai été arrêté net par l'effroi et le dégoût. J'avais écrasé une chose molle, flasque, un ventre, un sein. Milan avait-il piétiné pour le faire d'autres ventres et d'autres seins, et passé devant moi. Nous avons marché un peu plus vite. Le sentier entre les corps s'est élargi, peut-être parce que Milan était chaussé de bottes très lourdes, ou parce que, de temps à autre, il criait « Légion tchèque !» et que, à Vladivostok, comme sur tout le parcours du Transsibérien, c'était la seule formation qui possédait du prestige. J'ai pu relever la tête et, m'étant fait à l'obscurité, distinguer vaguement, mais distinguer tout de même dans ce magma de gisants informes, quelques êtres et leur attitude et leurs traits. Ils n'étaient plus des détritus jetés pêle-mêle au fond d'un dépotoir. Ils devenaient des hommes, des femmes, des enfants. Mais quels hommes, femmes et enfants ? Couchés à plat ou recroquevillés comme des fœtus, ou bien à genoux, ou appuyés sur leurs coudes, ils étaient immobiles pour la plupart, autant que des paralytiques. Et ceux qui bougeaient le faisaient d'un mouvement à peine perceptible. Manque de place, manque de force. Sur les visages, crasse, morve, abcès, ulcère. Il y en avait d'intact, mais leurs yeux et leurs bouches exprimaient le même épuisement et, pis encore, le même consentement. « C'est fini », disaient ses yeux d'aveugle, ses lèvres closes. Le silence régnait, aussi épais, aussi insupportable que l'odeur. De ci, de là, une plainte d'enfants, une toux déchirante, un râle, et pas d'autre bruit. Ces gens étaient au bout de tout. Ils avaient fui les rouges, les blancs, l'incendie, le pillage, les fausses nouvelles les plus folles. Paysans, bourgeois, artisans, ils avaient fui jusqu'à l'obstacle qui était la fin de tout, l'océan. Alors ils s'étaient laissés aller, tomber, dans la dernière gare de leur voyage.
Je laisse Joseph Kessel à la recherche de wagons pour transporter les marchandises. Là, on le voit parcourir les entrepôts de la gare et il va tomber sur un train blindé dans lequel il rencontrera des Cosaques qui battaient en retraite et qui se trouvent là rassemblés et qui avaient effectué tout le long de leur route des pillages et qui font bombance avec le fruit de leur vol.
Quel instinct a prévenu les officiers cosaques ? Ils ne devaient jamais les abandonner, je pense. Soudain, plus un bruit, ni de vaisselle, ni d'accordéon, ni de parole. Et tous, dans un seul mouvement, dressés par un ressort intérieur, droits et rigides comme des lances, menton haut, talons joints, bras collés au corps. Un homme était sur le seuil, si large que le torse emplissait l'embrasure de la porte, et si grand qu'il lui a fallu courber la nuque pour passer. 20 voix se sont fondues en un seul cri. « Soyez en bonne santé, votre haute excellence !» L'homme n'a répondu ni d'un mot ni d'un geste. Il est entré, s'est laissé tomber sur le premier fauteuil venu, en grommelant « Ça va comme ça !» Il avait mis fin aux formalités. Les choses ont repris le cours qu'elles avaient avant qu'il n'arrive. Oleg m'a dit à l'oreille « Le colonel Mayroutz, un ancien forçat. Il commande le train blindé, l'un des as de l'Ataman. Ne connaît ni peur ni pitié. Viens, je te présente. C'est seulement après que j'ai vraiment vu le visage cireux, boursouflé, avec une barbe carrée, grise, dure, emmêlée comme un paquet de ronces, et des yeux opaques, strigués de sang et de bile. Assieds-toi en face et fais servir ce qui te plaira, m'a-t-il ordonné. Il avait un accent sibérien rugueux et la peine à parler des grands asthmatiques. On lui apportait un hanap ouvragé qu'il a rempli moitié vodka et moitié champagne. Il a bu le mélange lentement, respirant fort après chaque gorgée, a défait le col de sa vareuse, s'est renversé dans son fauteuil et a grogné « Un Français et encore un Liotchik. On trouve de tout à Vladivostok. Et comment tu es arrivé jusque chez nous ?»« J'ai dit que j'avais eu Oleg pour guide et que seul, je n'aurais pas retrouvé le chemin. » Le chemin. Le chemin. Et il a raconté comment, lui, il avait su jalonner celui qui menait à l'Ataman. C'était l'an passé, en plein hiver, dans une région célèbre par ses froids. Semenov, alors, n'avait pas les moyens en hommes et en armes de tenir une ville de quelque importance. Il changeait souvent de quartier. Les gens qui le voulaient pour patron ne le trouvaient pas sans peine. Alors le colonel avait eu une idée, une bonne idée. Il choisissait un village suspect. Des rouges, non, ni rouges ni blancs. Simplement des moujiks avares qui tenaient trop à leurs porcs, à leurs vaches, à leurs édredons. Il les faisait attacher nus à des pieux, un bras tendu, jusqu'à ce qu'il gèle. À moins 50 ou 60 degrés, il ne fallait pas longtemps. Après quoi, on s'en allait avec le butin. Les bras des cadavres montraient la direction du campement de Semenov. S'il en changeait, il y avait toujours d'autres villages pour fournir les poteaux indicateurs. Le colonel a relevé les paupières, a caressé d'un pouce énorme ses épaulettes, plus larges, plus longues et plus dorées que ne le voulaient les règlements. L'Ataman les lui avait donnés comme récompense. « Le bon temps, votre haute noblesse, » a dit Oleg. Et les autres ont fait écho. « Le bon temps, » a dit le colonel. Dans ses yeux fixés sur moi, les filets de sang, de fiel, s'étaient mis à bouger, à danser. Maintenant, Semenov avait quartier général à Chita, grande ville empoisonnée par les missions étrangères. On devait y faire bonne figure, se réfréner, être sage. Je représentais tout cela. « Que vos mères soient enfilées par des porcs !» a juré le colonel en détachant chaque syllabe. Et il a quitté la pièce.
Ce qui peut étonner le lecteur, c'est que 60 ans après, Joseph Kessel, avec une telle exactitude, puisse raconter des faits anciens. Il décrit à la fois les paysages, il raconte les faits, mais il sait en même temps retrouver ses émotions. Et cela ne peut s'expliquer que quand on comprend qui est Kessel. Il y a Cocteau qui disait, ou Picasso, on ne sait plus avec les deux, on met longtemps à devenir jeune. Kessel est resté jeune. Il faut le voir. C'est un homme qui lit tous les jours la presse anglaise, la presse américaine et la presse française. C'est un homme qui s'intéresse à tout et qui a toujours besoin d'être étonné. Et ce n'est pas difficile de l'étonner, en dépit de toute l'expérience qu'il a eue, parce qu'il est anthropophage des autres. Et donc ce livre que nous lisons aujourd'hui, si Kessel l'avait écrit en 1918, il aurait constitué son premier reportage. Alors, j'en reviens au récit où, au milieu de toutes les abominations qu'il vivait journellement, parmi les galériens de l'horreur, il fréquentait un cabaret qui s'appelait l'Aquarium. Ce cabaret était peuplé d'hommes et de femmes qui se consolaient par l'orgie de vivre leur dernière heure, car ils savaient que les Rouges étaient aux portes de Vladivostok. Donc, dans ce cabaret, parmi toutes les prostituées qu'il coudoie et qu'il rencontre, il connaît une jeune femme qui avait pour lui des airs de mystère, tout en étant elle-même une prostituée, et une jeune femme, Léna, qui avait un air de mystère et aussi un pouvoir d'émotion, émotion à laquelle Kessel ne peut jamais demeurer insensible.
C'est au plus bas de ma forme que je suis descendu de traîneau devant l'aquarium. Une femme était rencognée sous le porche. Elle fumait. Chaque bouffée éclairait sa figure. J'ai reconnu Léna. Quand je suis passé devant elle, elle m'a demandé brusquement.
Est-ce vrai, comme on le dit, que tu parles si bien le russe?
Ce qu'on vous a dit est vrai. Et le « vous » dans ma voix n'avait pas d'inflexion particulière. Léna est venue à moi si près que le feu de sa cigarette m'a chauffé les paupières.
Pourquoi ce « vous » ?
J'ai répondu que rien ne m'autorisait à être familier avec elle. Je la connaissais de loin et seulement pour l'avoir entendue chanter.
Vous ne vous moquez pas ? C'est bien vrai que c'est l'habitude en France. Avec tout le monde. Tous les gens.
Ce murmure n'était ni plainte ni reproche, mais un étonnement sans borne. Un pays où les hommes et les femmes du labeur et de la faim, des champs, de l'atelier, de la fabrique, de la mine, tous les hommes, toutes les femmes aux mains calleuses et déformées, on s'adressait à eux, à elles, comme on le faisait à l'égard des riches, des officiers, des fonctionnaires, des policiers. Tandis qu'ici...
J'ai besoin d'air. À l'intérieur, c'est du poison. Le tour de chant, c'est bien plus tard. On pourrait se promener un peu.
J'ai accepté. Un ivrogne déguenillé, chancelant, s'est cogné contre moi et m'a accablé d'injures ordurières. Je lui ai répondu par réflexe de la même façon. Aussitôt, j'ai pensé à Léna et voulu m'excuser.
Oh, je vous en prie. J'en entends bien d'autres. Et ça m'arrive aussi. Ça montre au moins que vous savez à fond la langue russe. La vraie.
J'ai voulu alors raconter mes années d'Orenbourg. D'habitude, c'était accueilli avec curiosité, intérêt.
Non, non. La Russie, je connais. Je connais. Dites-moi la France. La France.
Les nuages étaient bas, il faisait un froid humide. Et Léna me pressait, harcelait. Paris, la vie là-bas. J'ai dit ce que j'y avais connu hors de la guerre, mes parents, leurs amis, la Sorbonne, le quartier latin, mes copains étudiants, le Luxembourg, les cafés, la bohème. Quand enfin je me suis tu, Léna a dit, après un très court et lourd silence, la tête levée vers la chape des nuages noirs.
Pas plus vieux que moi, et tant de choses et tant... Tant d'avenir.
Dans cet amour étrange avec Léna, qui nous est raconté ici, personnellement, je retrouve toute l'œuvre de Kessel et tout le personnage que je crois connaître. C'est que Kessel est un homme très doué pour se donner tort, et très doué pour les regrets et pour le remords. Et alors on voit, dans ses rapports avec Léna, qu'il est à la fois... très homme, dans le sens un peu brutal, mais en même temps qu'il sait qu'il fait de la peine à cette fille, parce que s'il se montre très gentil avec elle, à son tour elle aura le regret de lui, et puis quand il sera parti, car il partira, cette fille demeurera seule. Alors je retrouve un peu le caractère de Kessel, qui est un homme tolérant, et qui est un homme qui est capable de se mettre en colère, mais vraiment comme un adolescent, et puis la nuit regretter sa colère et téléphoner le matin pour dire, non pas excuse-moi, parce que c'est pas sa manière, mais pour parler d'autre chose, mais pour renouer un lien qui, du reste, n'avait pas été distendu.
La Svetlanskaya défilait très lentement, c'était bien. On allait à la cadence tranquille, légère des sabots. Sans secousse. J'entourais d'un bras les petites épaules de Léna, et elle se tenait serrée contre moi, si étroitement qu'elle semblait vouloir lier en un seul nos deux corps. Tout était bien. Tout était réglé, entendu. Peu à peu, les sabots des chevaux ne trottaient plus sur les pavés. Dans les ruelles que nous suivions, la boue les remplaçait. L'impasse de Léna n'était pas loin. Léna a rejeté mon bras avec une violence dure, sauvage. S'est collée au fond du traîneau. Elle grelottait. L'alcool, le manque. J'ai voulu savoir si elle avait mal. Je suis sûr qu'elle ne m'a pas entendu. Du fond du traîneau, et si bas que sa voix semblait venir d'une très longue distance, elle m'a demandé...
Est-ce que vraiment tu m'aimes ?
Je lui ai dit que oui. Sans mentir, sans arrière-pensée, et je l'aimais. Ou du moins, je le croyais de tout mon cœur. Les deux chevaux trottinaient plus lentement. La boue leur cinglait les pieds. Alors, j'ai été saisi d'impatience. Une fille si désespérée et si fière, abandonnée complètement à moi, fort, souverain, qui pouvait lui dispenser bonheur ou tourment à ma guise. Elle avait un corps, une chair qu'il me fallait protéger, guérir, prendre. « Tu dors ou quoi? Le diable t'emporte !» Et je criai au cocher. Léna a relevé la tête un tout petit peu, d'un très doux mouvement comme tiré d'un sommeil profond et paisible. Passive. La lanière du fouet a sifflé méchamment et cinglé, enlevé les chevaux. Enfin, un dernier chaos. Le cocher avait tiré de tout son poids sur les rênes devant le gîte de Léna. Je l'ai prise contre moi. J'ai passé mes bras sous sa nuque et ses genoux. Elle ne pesait rien. J'allais, elle sur ma poitrine, sauter de la voiture, jeter un paquet de roubles au cocher et monter, la portant toujours, jusqu'à sa chambre. La pointe d'un coup d'aigu lancé avec une force incroyable m'a brûlé les côtes. J'ai lâché Léna. Le temps de me reprendre, elle était déjà hors du traîneau. Je l'ai rattrapée par un poignet sur la première des trois marches en bois pourri qui menait au perron. Elle a fait face.
Quoi ? Que veux-tu ?
Alors, de découvrir, sous le lumignon d'un bouge, une fille qui, après avoir tout accepté, tout promis avec bonheur, refusait de le reconnaître et mentait, insultait à ce bonheur, j'ai vraiment vu rouge. La rage qui m'a pris au viscère, je n'ai pas cherché à la contrôler. Elle n'était que trop juste. Ce que je veux de toi, facile, coucher. Léna m'a lacéré le dos de la main de ses ongles. Je l'ai lâché. Elle a gravi à reculons la deuxième marche et de là, elle a crié.
Pour rien au monde. Jamais, jamais, jamais.
Elle a dû voir à mes traits que ma colère était souffrance aussi et qu'un désir frustré n'était pas seul en jeu. Elle est descendue d'une marche et son visage s'est trouvé au niveau du mien. Froidement, tranquillement, elle a dit
« Tu veux savoir pourquoi ? J'ai une sale maladie, voilà pourquoi. »
Je ne sais pas ce que j'ai pu ressentir, vraiment je ne le sais pas et je pense que sur l'instant je ne l'ai pas su davantage. Rien sans doute, juste le choc.
Alors ? Te voilà muet et paralytique. Tu n'as plus envie de moi, bel officier.
Et d'un seul coup, sans que la moindre inflexion du visage ou de la voix ait pu l'annoncer, un rictus haineux, hideux, lui a élargi, tordu, ébréché la bouche. Elle était méconnaissable. Elle a incliné la tête pour mettre ses yeux contre les miens, et son souffle est passé sur ma peau, et dans ce souffle, il y avait...
Aime-moi noir. Aime-moi noir.
Et puis ?
Tu as oublié ? Déjà ? Ou peut-être je ne suis pas assez noire à ton goût pour que tu m'aimes ?
Elle m'a agrippé aux épaules, m'a secoué avec la force des hauts fiévreux ou des fous. Mais sa voix ne s'est pas élevée d'un ton.
Qu'à cela ne tienne, mon chéri, mon angelot, je vais te combler. La maladie, je ne sais pas de qui je l'ai reçue. Mais qu'est-ce que ça peut faire ? Dis ! Et de repasser le mal au premier venu, dis ! Va dire dans votre loge, à tes beaux petits porcs en uniforme, en rut, va leur dire que je n'ai pas honte, pas regret. J'en suis heureuse, fière, je les hais plus que tous les autres hommes, tes amis. Ils sont jeunes, forts, de l'argent à ne pas savoir qu'en faire. Ils ont un pays, ils ont une famille qui attend. Et toi, tu es comme eux. Et ça n'est pas parce que tu parles russe et que tu peux dire « Aime-moi noir !»
J'ai trébuché, chancelé, et il a fallu pour me rétablir que je cogne de dos le traîneau arrêté à quelques pas du perron. Une poussée de Léna y avait suffi. Les chevaux se sont ébroués, les grelots ont sonné. Léna a voulu courir vers la porte. Elle s'est ouverte sur le veilleur de nuit. Il a chantonné « Allons, allons, colombe, on fait beaucoup de bruit ce soir. » Léna, avec un gémissement de bonheur, s'est abattue contre la vieille capote militaire et a caché sa tête sous la barbe grise. Le veilleur de nuit lui a caressé les cheveux. Chantonnant toujours « Allons, allons, colombe, ça passera, tout passe, ça passera. »
C'était Un livre des voix par Pierre Cipriot, Les temps sauvages de Joseph Kessel avec Louis Nucera, lecture Jean Topard et Régine Blas, réalisation Henri Soubéran, une émission diffusée pour la première fois sur France Culture le 12 janvier 1976.